historienne, mais aussi de citoyenne, parce que tous ces récits alternatifs, ces récits autour du complotisme, viennent en concurrence avec un récit commun qui est censé nous aider à faire société, et c'est ça qui vous angoisse, je crois.
Ouais, ce qui m'angoisse surtout, c'est que je suis pas sûre qu'on ait encore un récit commun précisément à opposer à ces récits antidémocratiques. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que depuis 25 ans, on se fait doubler en permanence par des récits justement qui sont contre notre projet de société. Et ça m'angoisse, ouais, carrément.
Alors, on va en parler une heure. Paolo Dallaglio, un jésuite qui vivait en Syrie depuis 30 ans, qui a disparu, qui a été enlevé par Daesh à Raqqa en 2013. C'était un ami de votre famille, vous le connaissiez très bien. Il militait pour le dialogue et vous dites, il a été déterminant, ça a été un détonateur dans mon travail sur le complotisme et les contre-récits. Pourquoi ?
Ouais, ça m'émeut beaucoup, oui, de le voir, je veux dire.
Oui, on l'avait reçu d'ailleurs, nous, en janvier 2013.
Oui. Ouais, qui a rencontré Paolo, oui, ne peut pas l'oublier. Il avait un charisme exceptionnel et c'était un charisme démocratique, justement. C'est-à-dire que c'est ça qui était intéressant avec ce personnage, qui était un prêtre catholique, oui, c'est qu'au début de la Révolution syrienne, il a eu vraiment, on pourrait dire, son identité antifasciste qui s'est réveillée. Et il a eu cet engouement pour défendre la démocratie en Syrie, mais aussi en Europe. Il a fait beaucoup de plateaux, de médias, il a rencontré des politiques. Il voulait vraiment convaincre que la lutte démocratique devait redevenir centrale. Et en fait, quand on repense à ça avec du recul, on se dit que c'était un peu prophétique, si j'ose dire le mot, à un moment où, justement, dans nos sociétés, on était un peu en train de délaisser cette lutte démocratique.
Et ce que vous faites remarquer dans la bataille des récits, c'est que ce soit QAnon, les antivax, Vladimir Poutine ou d'autres, conspirationnistes de tout poil, complotistes, ils ont une longueur d'avance sur les démocrates. Ils ont compris l'importance fondamentale du récit, en l'occurrence un contre-récit, dans la bataille des récits. Et vous dites, dans les démocraties, on s'est réveillé un peu tard par rapport à ça.
Ah oui, on continue à se faire doubler en permanence. En tout cas, c'est mon sentiment. Parce que dès le début des années 2000, les acteurs antidémocratiques ont compris que quelque part, il y avait un terreau, on pourrait dire, pour essayer de diffuser, de distiller, on pourrait dire, leur discours dans les démocraties occidentales. Le 11 septembre 2001 était évidemment une espèce de prétexte pour dire en quelque sorte, mais vous voyez bien que les démocraties, elles ne sont pas aussi bien que ce qu'on disait. Elles ne vous protègent pas comme on le prétendait. Et donc à partir de là, ça a été progressif évidemment. Et grâce au web aussi, bien sûr, qui se massifiait au même moment.
Les réseaux sociaux, Internet.
Tout à fait, ça a accéléré. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en face, donc c'est-à-dire nous, on a tout le temps un petit peu sous-estimé et puis on a été beaucoup dans la réaction et pas beaucoup dans l'offensive. Je pense que la démocratie...
Quelle est la différence entre la réaction et l'offensive ?
Mais qu'est-ce qu'on propose ? On doit convaincre quand même les gens. Poutine, alors je n'admire pas Poutine, mais on doit lui reconnaître une chose, c'est qu'il a compris qu'il fallait convaincre les opinions. Si en face, on est juste dans la contre-argumentation de Poutine, mais qu'on n'est pas dans quelque chose de convaincant, enthousiasmant, si j'ose dire le mot, mais comment est-ce qu'on va pouvoir encore résister aux sirènes de Poutine et de ses sbires ?
Il y a un pas franchi supplémentaire avec l'arrivée de Trump, c'est ce que vous dites, et la post-vérité. Ça, c'est un nouveau cran quand même dans ce que vous dénoncez.
La prise de pouvoir de Trump en 2017, quand il prend le pouvoir début 2017, c'est vraiment le grand basculement des démocraties occidentales. Ça, c'est très clair parce que c'est un petit peu le récit alternatif qui prend le pouvoir. Il faut se rappeler que Trump s'est fait élire sur une rhétorique anti-système, sur la haine des médias, rappelons-nous. Il disait à tous les médias « you are fake news », ça continue, mais c'est à ce moment-là qu'il a un petit peu auguré la chose. Et donc, on a en fait ce récit de défiance antidémocratique qui prend le pouvoir au sein de la première démocratie occidentale. Et donc à partir de là, moi je ne pense pas seulement que c'est la victoire du mensonge, c'est la victoire des forces antidémocratiques, c'est la victoire d'un projet qui est contre les récits émancipateurs au sein de nos sociétés. Et ça, c'est vraiment un grand danger. Et on voit évidemment les dégâts que ça a fait aujourd'hui.
Marie Pelletier, on va évoquer avec vous et avec Anna le cas précis en France d'une figure des médias. Elle est pro-russe et elle suscite de plus en plus de polémiques en France. Elle s'appelle
Xenia Fedorova et voilà ce qu'elle dit. C'est l'Occident qui a décidé de prolonger la guerre en Ukraine et d'affaiblir la Russie. Elle est aussi l'ancienne directrice de la chaîne russe Russia Today en France. Aujourd'hui, chroniqueuse dans les médias du groupe Bolloré, CNews et Europe 1 notamment. Et elle est régulièrement accusée par une partie de la classe politique de participer à la désinformation au sujet du conflit en Ukraine. Et la semaine dernière, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, l'a même qualifié, je cite, de propagandiste patenté qui sert la soupe de Vladimir Poutine. En parallèle, l'ARCOM a reçu 2 saisines au mois de mai visant son manque d'honnêteté et de rigueur de l'information. Hier, c'est le groupe Renew Europe qui a demandé à l'Union européenne de prendre des sanctions contre cette chroniqueuse pour diffusion de propos propagandistes. Quant à Raphaël Glucksmann, il a appelé carrément à ce qu'on lui retire le micro, mais en même temps, lui couper le micro, ce serait porter atteinte à sa liberté d'expression, non ?
Alors, il y a la question de la liberté d'expression, mais il n'y a pas seulement la question de la liberté d'expression, il y a la question des balises démocratiques, justement. Mm-hmm. Vous savez, moi, je viens de Belgique, vous le savez sans doute, et on a une culture qui est assez connue, de ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Alors, on ne la respecte plus trop aujourd'hui, faut être honnête, mais en tout cas, à la base, l'idée, c'était de dire... Les discours antidémocratiques n'ont pas leur place autour de la table. Mmh. Ça, c'est un projet démocratique. La liberté d'expression s'arrête à ceux qui, quelque part, œuvrent contre nous. Je pense que ces balises-là, malheureusement, elles ont sauté ces dernières années progressivement, aussi dans les sphères médiatiques, où de plus en plus on a invité autour de la table des personnes d'extrême droite, des personnes proches des dictatures, etc., en laissant penser que c'était des paroles comme les autres. Parce que justement, ces acteurs ont beaucoup mis en avant la valeur de la liberté d'expression pour banaliser en fait la parole antidémocratique. Donc par rapport à cette propagandiste, parce que je considère qu'elle est une propagandiste, c'est très clair, j'ai envie de dire c'est un peu la pointe de l'iceberg. Malheureusement, des propagandistes de Poutine, je ne vais pas dire qu'il y en a partout, il ne faut pas non plus exagérer, mais ils sont nombreux et ils sont dans beaucoup de sphères différentes parce qu'on les a laissés entrer à l'intérieur de notre maison, si je puis dire comme ça. Mm-hmm.
Ce qui est inquiétant, vous lisant, c'est qu'on se rend compte que les faits ne suffisent plus à rétablir la vérité ou à convaincre. Et vous prenez l'exemple, par exemple, des vaccins. Vous avez pris un biais pour essayer de convaincre vos étudiants que les vaccins étaient légitimes et qu'il fallait se faire vacciner au moment du Covid.
Oui, alors, dans le livre, je porte aussi, je porte une critique du fact-checking, parce que je pense que depuis des années...
La vérification des faits.
Oui, effectivement. C'est-à-dire, on le sait, notamment dans les médias, et c'est quelque chose qui est positif en partie, bien sûr, on a pris ce réflexe de dire, face au discours de désinformation, on va débunker. Le problème, c'est que ça ne convainc pas la plupart du temps, et donc on se perd dans un fact-checking sans fin. Pour les vaccins, justement, j'avais perçu que ce fact-checking ne convainquait pas, par exemple, mes élèves anti-vaccins. Quoi. Et ce que j'ai fait comme expérience, je la raconte dans le livre, c'est de prendre une autre porte d'entrée, c'est de dire... Pourquoi moi je pense que la vaccination est importante ? C'est-à-dire oser mettre sur la table la question des valeurs. Ce qui n'est plus du tout un truc qui est tellement prôné dans notre société. On nous invite à être neutre.
Oui, moi, vous dites qu'il ne faut plus être neutre.
Ah mais clairement, la neutralité ça nous a énormément affaibli face au discours antidémocratique, que ce soit pour les journalistes, pour les profs, pour les chercheurs. Ce dogme-là nous a laissé vraiment... nous faire un petit peu manger par des logiques qui ont profité quelque part de notre posture de surplomb pour s'imposer comme le discours le plus convaincant.
Là, vous parlez comme ma professeure parce que vous êtes historienne, mais vous enseignez aussi la didactique, c'est-à-dire l'histoire à des futurs enseignants. Donc, vous êtes à même de mesurer si neutralité ou pas neutralité. Qu'est-ce que vous diriez à des neuroscientifiques qui vous diraient on a regardé comment fonctionne le cerveau humain, confronté à des théories délirantes, encore une fois platistes ou beaucoup plus graves, QAnon et autres, les gens qui regardent des trucs, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça mobilise la dopamine, une zone du cerveau qui est la zone de la récompense. Donc comment lutte-t-on contre la dopamine qui fabrique une addiction à ces fausses informations ou à ces récits alternatifs ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
C'est très intéressant que vous parliez du cerveau parce que je pense que c'est une des choses qui nous a en partie affaibli, c'est qu'on a beaucoup emprunté cette lecture cognitive, neuroscientifique, etc., qui a son intérêt, qui a sa pertinence. Mais malheureusement, elle s'est faite aussi au service d'une grande dépolitisation. Les gens qui croient entre guillemets, ou qui adhèrent, je préfère le terme adhérer, à certains récits, c'est parce que ça répond à leurs valeurs et à leur vision du monde. C'est pas seulement parce que ça leur apporte un shoot de dopamine. En fait, on est tous shootés à la dopamine sur les réseaux sociaux, on va être très clair, il faut être un peu
par rapport
à ça. C'est le principe même. Alors pourquoi est-ce qu'en tant qu'acteur démocratique, je vais dire ça de manière un peu provocante, est-ce qu'on pourrait pas faire des shoots de dopamine démocratique, c'est-à-dire de la propagande démocratique en quelque sorte?
Eh bien ça peut y aider. Cet ouvrage, cet essai, le vôtre, Marie Pelletier, La bataille des récits aux éditions Stock, il vient de paraître.